Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com, mais également sur le site des expats. Donc bonjour aux Français d'outre-mer et d'outre-continent. Aujourd'hui, je reçois donc Michel Toulet, le pape du patrimoine sur la cité de Limoges et même de ses environs. Bonjour Michel.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, de quoi vas-tu nous parler ?
Eh bien, puisqu'on a un accès aux expatriés, je vais parler un peu, pour commencer, des pays étrangers. Parce que je suis en train de travailler sur les pays étrangers. Je m'explique. Il y a à Limoges deux institutions qu'on appelle l'une les archives municipales de Limoges et l'autre les archives départementales de la Haute-Vienne. Il y a des archives municipales dans toutes les grandes villes, il y a des archives départementales dans tous les départements. Bien. Il y a quelques dizaines d'années, les services d'archives ont été envahis, le mot est un peu dur mais je l'assume, par des gens qui faisaient leur généalogie.
C'est vrai.
Et à un moment, les services ont été saturés. Ils se sont grattés la tête pour voir comment faire et ils ont eu une excellente idée. Ils ont mis les registres d'état civil sur Internet, chacun sur son site, archives municipales, archives départementales de chaque département. Et les généalogistes ont pu travailler à leur généalogie depuis chez eux. Et peu à peu, les services d'archives ont mis d'autres documents. Des documents qui sont souvent très intéressants et qui ont de moins en moins à voir avec la généalogie et de plus en plus avec l'histoire. Et là, on me voit venir. Déjà, c'est intéressant parce que il y a par exemple des documents disponibles en ligne aux archives nationales, sur le site des archives nationales à Paris. Il y a des documents disponibles sur le site de Pau. Or, il faut se souvenir que le dernier vicomte de Limoges était roi de Navarre et il est devenu roi de France sous le nom de Henri IV. Ça dit quelque chose, Henri IV, la poule au pot et tout ça. Et donc, il était vicomte de Limoges. Donc, toutes les archives de la vicomté de Limoges sont à Pau. Donc, si vous voulez faire l'histoire de la vicomté de Limoges, voyage à Pau requis. Un peu moins maintenant. Bon. Et puis, un jour, l'œuf de Christophe Colomb. La réflexion toute bête. Je me suis dit, mais si les services d'archives français ont fait cette mise en ligne, peut-être que les services d'archives étrangers ont aussi fait cette mise en ligne.
Tout à fait.
Ils l'ont fait. Alors, il y a un service d'archives qui ne l'a pas fait. Ce sont les archives du Vatican. Les archives du Vatican ne sont pas disponibles en ligne. C'est dommage, ce serait certainement passionnant. Mais bon, il est vrai que la généalogie au Vatican est un peu limitée. Mais bon, sauf pour certains Borgia et autres. Mais passons là-dessus. Mais par contre, les autres pays... Effectivement, l'ont fait. Les États-Unis, vous savez comment sont les Américains. Ils font tout très bien. En bien comme en mal, ils font tout à fond.
Tout à fait.
Donc, ils ont mis des choses passionnantes sur Internet. Ils ont mis des trucs sur la présence américaine à Limoges entre 1917 et 1919, quand l'armée américaine est venue au secours de la France en guerre, des choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Et, aux Pays-Bas, il y a, étonnant, les archives sociales de l'Institut international d'histoire sociale. tout à fait intéressant. Également, sur tout ce qui concerne Jansénius. Alors, Jansénius, personnage important du XVIIe siècle, qui est le fondateur du jansénisme. Et le jansénisme, doctrine un peu hérétique du catholicisme, était dans les Pays-Bas de l'époque. Et donc, il y a ces archives. Et certaines concernent Limoges. Il y a les archives anglaises, tout à fait intéressantes, un peu plus réduites. Et puis, il y a une archive absolument fabuleuse. Ce sont les archives allemandes. Parce que, par exemple, on va parler un peu de ce qui concerne 39-45, ou plus exactement, 40 novembre 1942, septembre 1944, l'occupation. Limoges, à partir du 11 novembre 1942, date à laquelle l'armée allemande a franchi
le Rubicon,
la ligne de démarcation, Limoges a été occupée par l'armée allemande. Or, toutes les armées du monde ont le même principe. Les unités rédigent des journaux de guerre. Alors, en France, on appelle ça des journaux de marche et d'opération, ou JMO, les JMO de l'armée française. En Allemagne, ce sont les Kriegstagebuch. Pour le livre, Tage, le jour, journal, Krieg, la guerre, journal de guerre. Bien. Je pensais dans ma grande naïveté qu'avec la retraite allemande, ces documents avaient disparu dans la tourmente. Que nenni, non point. Ils sont à Berlin et ils sont sur Internet. Et c'est passionnant. Parce qu'on voit.
Avec la traduction, parce que.
Ah non, non, non.
La traduction. Parle allemand.
La traduction, si j'ose dire, comme on dit en très mauvais allemand, Demerden Zizisch. Voilà. Là, il faut traduire phrase par phrase. C'est parfois un peu longué, mais il y a des choses passionnantes. Par exemple, on parle des actes des résistants, du maquis, de l'armée secrète. Bien. Et on parle, au moment de la libération, des chefs du maquis.
Tout à fait.
Comment dit-on chef du maquis en allemand ?
On t'attend, là. On boit tes paroles.
Der Führer der Maquis. Der Führer der Maquis. Guingouin était Führer der Maquis. Heureusement qu'il est mort. Ça l'aurait
oui.
tué. Ça l'aurait tué.
Il devait le savoir, je suppose.
Il pouvait s'en douter. Mais il faut reconnaître qu'elle est excellente. Et on se rend compte de petites choses intéressantes. Prenons un exemple. Le récit de la libération. Récit habituel de la libération. Les forces du maquis encerclent Limoges, mais à distance. Le général commandant la place, le général Kleiniger, engage des négociations. Mais il ne peut pas engager des négociations avec le Führer der Maquis. C'est impossible, c'est un civil. Un militaire ne capitule jamais devant un civil. Donc, les alliés envoient des représentants, parachutent exactement des représentants, en Haute-Vienne, le major Stoughton et le capitaine Viguier, oui, Viguier, qui représenteront les Anglais et les Américains. Et le général Gleniger signe aux Alliés, pas à Guingouin, même si Guingouin est présent à la négociation. Et là, raconte-t-on, les SS se mutinent, arrêtent le général Gleniger et décident de quitter Limoges. Et ils quittent Limoges, direction Guéret, etc. Version classique. Qu'est-ce que disent les archives allemandes ? Le général Gleniger, constatant que Limoges est encerclé, prend contact avec les représentants des Alliés, le major Stoughton et le capitaine, et demande de négocier. Les négociateurs annoncent que Limoges est encerclé par Casimir Maquisard.
Ça fait beaucoup.
Casimir, selon la police ou selon les organisateurs ?
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, le général Gleniger signe la capitulation. Et là, ce ne sont pas tout à fait les SS qui interviennent. Parce qu'il n'y a pas de SS combattant sur la place de Limoges. Mais il y a des services dépendant de l'institution SS. Ce service, c'est ce qu'on appelle en allemand le SD ou le Sicherheitsdienst, le service de sécurité, dont dépend un service un peu connu qui s'appelait la Geheime Stadtpolizei, police secrète d'État, alias Gestapo. Service éminemment efficace, comme on sait. Donc, c'est le Sicherheitsdienst qui va agir. Mais il ne se mutine pas. Il envoie un message radio à sa hiérarchie. Sa hiérarchie qui est à Lyon et qui est représentée par son chef qui a nom Klaus Barbie. Un nom connu.
Oui.
Très connu. Et l'ordre qui revient en retour est celui, lui, un, d'arrêter Gleniger et deux, de percer en direction de l'Est, Saint-Léonard de Nombla et Guéret. Et c'est ce que fait la SD et des unités suivent. C'est-à-dire que ce n'est pas une mutinerie, c'est une obéissance aux ordres du supérieur hiérarchique, sachant que le Sicherheitsdienst ne dépendait pas du général Gleniger, mais dépendait de Klaus Barbie.
D'accord.
Donc, les unités suivent. Lorsque la percée. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le récit de la percée qu'on a, il y a des gens qui n'apprécient jamais. Ce sont tous les collabos de Limoges qui prennent la fuite derrière la colonne. Les Allemands n'en parlent jamais. Ils les toléraient, mais ils étaient priés de suivre sans poser de questions et sans trop se faire remarquer. Voilà. Donc, les Allemands partent. Et ils partent mit ganzen Kampfen. Au milieu des combats. Ils arrivent à Guéret mit ganzen Kampfen. Au milieu des combats. À Guéret, là, il se passe quelque chose. C'est que les unités qui dépendaient du général Gleniger passent instantanément, et du fait même qu'elles arrivent dans la place de Guéret, sous le commandement du colonel Van Kopf, commandant le quartier général de Guéret. Par contre, le SD est toujours indépendant, puisqu'il dépend toujours de Lyon et qu'il obéit aux ordres de Lyon. Mais Van Kopf n'a pas d'ordre de repli. Donc, le SD continue son mouvement de repli alors que les unités de Limoges restent à Guéret. Et ce n'est que 24 heures plus tard que l'ordre de repli arrive et que Limoges, les Allemands de Limoges et ceux de Guéret quittent Guéret. Et ça devient passionnant pour Châteauroux. Je me trompe.
Ah oui,
Pour Montluçon. Oui. Parce que l'étape suivante, c'est Montluçon. Or, Montluçon a déjà été libéré par les résistants. Et la colonne va se heurter à Châteauroux. Or, elle va se heurter en deux fois. D'abord le SD, et 24 heures après, l'autre colonne. Et parce qu'ils sont séparés, ni l'une ni l'autre ne pourra passer. Il va y avoir des combats extrêmement durs, extraordinairement durs, devant Montluçon. Le SD a dû faire le détour et passer par un autre pont, et le reste de la colonne, malgré la présence de Minenwerfer, des mortiers lourds, quand vous receviez un obus de Minenwerfer aux alentours,
il n'y avait plus grand-chose.
Il n'y avait plus grand-chose, ça tombait bien. Donc, une compagnie de Minenwerfer en action n'a pas réussi à percer. Il a fallu aussi qu'il fasse le détour. Et ils sont arrivés après à Moulins. Et à Moulins, au calme.
Bien sûr.
Une journée de repos, et après, direction Langres, direction Belfort, direction Strasbourg, c'est-à-dire que là, on était dans le Grand Reich allemand, puisque je rappelle que Strasbourg avait été annexé au Grand Reich allemand et sérieusement mis au pas par les soins de la Gestapo dont j'ai parlé tout à l'heure.
Tout
Donc,
à fait.
Vous imaginez ce que c'était à l'époque. Donc là, ils étaient... Pays.
Et donc, tu as trouvé tout ça dans les archives.
Et donc, tout ça, tout ce récit qui est...
Sur les archives allemandes.
Dans les archives allemandes qui sont à Berlin.
D'accord.
Et qui sont sur Internet, donc disponibles.
Donc là, tu nous as raconté la fuite en arrière.
Voilà. Le repli, la retraite. Voilà. Et donc, il y a des choses...
Il y a des choses, oui.
Sur Internet qui sont passionnantes. Mais je pense aussi que, comme pour les archives françaises, il n'y a pas tout.
Ah, bien sûr que non.
Il ne peut pas tout y avoir. Donc, je fais appel à des volontaires qui voudraient aller à Washington.
Ah oui, c'est
Berlin.
Tout ça, c'est pour expliquer.
À Madrid, à Amsterdam. Voilà, pour aller gratter dans les archives, ce qui n'est pas. Il faut aller voir tout ça. Les archives américaines, je pourrais en parler très longuement. Il y a des choses absolument grandioses.
Tu as sorti dans le magazine, d'ailleurs, par rapport à la Première Guerre mondiale, c'est très, très, très amusant.
C'est très amusant. Ouais. Mais il y a encore d'autres choses qui vont sortir. On est en train de préparer un bulletin.
On va en parler. On va peut-être faire une petite page de musical. Hein.
Allez, je suis bavard.
T'es toujours aussi bavard, tout à fait. Donc, t'as choisi Edith Piaf avec l'hymne à l'amour, Michel Sardou avec les lacs du Connemara et Jean Ferrat à la montagne. Pourquoi ces choix, Michel ?
Allez, Edith Piaf, c'est un peu d'actualité avec l'ouverture des JO. Et Céline Dion.
Les JO, ils sont finis. Hein.
Oui, c'est fini. Oui, donc l'actualité n'est plus actuelle. Ensuite, les deux autres, bah, tout simplement parce que ce sont des chansons que j'aime bien et qui racontent le paysage et les paysages et la beauté des paysages. Je rappelle que Renaissance du Limoges se bat pour le patrimoine naturel et paysager. Ça fait partie de nos statuts.
Tout à fait, et ça on y reviendra sûrement avec l'alignement de la caserne Marceau. Tu vois, je retiens mes leçons, moi. Et bien on se retrouve après cette page musicale de Michel Toulet.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. et la terre peut bien s'écrouler. Le matin, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, je m'abandonne. Je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. La vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire 3 jours et 2 nuits. sait tout le prix du silence. Là-bas, on connaît ma main. On dit que la vie, c'est une folie. Et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. Encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois. Celle des rois d'Angleterre.
Un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sorties. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver.
De retour dans le Café des Amis avec Michel Toulet. Vous êtes dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com ainsi que sur The Expat, les expats. C'est une association, un organisme qui est dédié à nos expatriés qui veulent avoir des nouvelles du pays hôte. Donc, Michel, tu es revenu sur un appel à nos amis expatriés, d'ailleurs, de façon à faire conjointement sur les archives qui parlent de la France à l'étranger. C'est ça ?
Tout à fait.
Donc, on peut te contacter à michel.toulet, T-O-U-L-E-T,
tout à fait.
@orange.fr.
Tout à fait, tout simplement. Et toutes les bonnes volontés un peu partout dans le monde, parce que je suis sûr qu'il y a un peu partout dans le monde des choses tout à fait passionnantes à découvrir. Vraiment, allez, histoire de sourire, un petit sourire avant de passer au sujet suivant pour l'actualité, j'ai découvert, mais là, aux archives à Paris, sur Internet, un père de famille au XVIIIe siècle qui n'arrivait plus à tenir son gamin qui était en train de devenir un délinquant sortant la nuit jusqu'à pas d'heure.
C'est d'actualité.
C'est très d'actualité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce père de famille de Limoges ? Il a écrit au ministre de la Marine, je dis bien de la Marine de l'époque, pour lui dire que malgré tous ses efforts, il n'arrivait plus à tenir son gamin, et que donc il demandait qu'on lui accorde une lettre de cachet, parce que la lettre de cachet, qui est considérée comme l'exemple même de l'arbitraire royal, était très appréciée par les gens qui avaient des problèmes dans leur famille, que ce soit la femme ou le mari d'ailleurs qui s'escorbillait avec une jeune personne ou bien le fils de famille, etc. Donc on réglait ses comptes discrètement par lettre de cachet. Donc il demande une lettre de cachet au ministre de la Marine pour que le jeune fils soit envoyé en Louisiane. En Louisiane, et il annonce que conformément à la réglementation en matière de lettres de cachet, c'est eux qui paieront le voyage et ils verseront une pension à leur fils pendant le temps de son séjour en Louisiane, aussi long soit-il. Et voilà comment on règle les problèmes de jeunesse délinquante au XVIIIe siècle. Je passe le message au nouveau ministre de l'Intérieur, rétablissant les lettres de cachet et envoyant les jeunes délinquants en Louisiane ou ailleurs. Ou ailleurs.
Enfin, c'est pas du tout le même contexte, quand même. C'est pas du tout. La pauvre, la Louisiane, c'est civilisé aussi, comme la France, d'ailleurs.
J'avais pensé aussi à la Nouvelle-Calédonie, mais mieux vaut pas y aller actuellement en Nouvelle-Calédonie, ni envoyer ses enfants, parce que, oula, les pauvres.
Où faut-il aller de nos jours?
Oh! Ni en Israël, ni en Ukraine, ni en beaucoup d'endroits.
Tout à fait. Et on parlait des expatriés, etc. Pour l'anecdote aussi, tu as un cheval de bataille depuis quelques années. C'est le grand auteur japonais qui a fait un long séjour à Limoges. Et donc voilà.
Shimasaki Tozo.
Voilà.
Shimasaki Tozo, 1914.
Un petit clin d'œil pour nos expatriés qui sont au Japon.
Voilà, exactement. Donc, on verra bien ce que ça va donner. C'est dommage qu'il ait fallu arrêter là, mais bon. Interrompre.
Alors, Michel, en cette rentrée 2024, quels sont tes chevaux de bataille et surtout les satisfactions? Parce que récemment, c'était les journées du patrimoine et le cercle Turgot a réouvert pour une visite lors de ces journées.
Alors, effectivement, ça a été une satisfaction parce que je ne dirai rien du précédent propriétaire et des squatteurs qui ont occupé parce que je tiens à rester dans les limites de la politesse bien française. Donc, je n'en dirai strictement rien. Maintenant, il y a un nouveau propriétaire. Donc, visiblement, fruit de cette visite, il va avoir du travail. Il va avoir beaucoup de travail, il va falloir y mettre de l'argent parce que ça a été très dégradé et par le temps et par les squatteurs, et par l'indifférence, passons, de beaucoup de gens. C'est quand même bien. Un tout petit regret quand même, minusculissime regret quand même que j'ai trouvé, un minuscule regret que j'ai trouvé dans tout ça, quand on ouvre une maison, ça aurait peut-être été bien de passer un peu
un balai.
Ceci dit, il y a du travail, mais c'est sauvable. C'est encore sauvable. Simplement, il faut y mettre de l'argent. Après, il y aura des projets de logement en co-living, ou colocation, comme vous voulez, l'espace proprement Cercle de l'Union et Turgot, c'est-à-dire le premier étage, sera ouvert pour des événements, des fêtes, des mariages pour les Limougeaux. C'est une bonne nouvelle. Tous les Limougeaux d'un certain âge se souviennent d'avoir fait la fête au Cercle de l'Union et Turgot. Ça, c'est même pas la peine de faire un sondage.
C'est moi le premier.
Voilà, exactement. Bon, et on se souvient que c'était absolument superbe. Ça, c'est un grand sujet de satisfaction. Autre sujet de satisfaction, la caserne Marceau. La caserne Marceau.
Ça a été long, là. Hein.
Ah, ça a été long. On est mal parti.
On est bien arrivé.
Mais on est bien arrivé. Résumons-nous. Le premier projet, c'était on démolit tout sauf les pavillons, les anciens casernements de part et d'autre, et on construit moderne. Et on construit sur la place Marceau, et on construit entre les deux pavillons, et on construit partout, et on rase une maison par tout ça, on démolit et on construit. J'ai pas aimé la Renaissance du. Et moi, j'en ai pas aimé du tout. Il y a eu un atelier participatif. Le principe, c'était simple, c'était on va faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez des trucs? Là, j'ai commencé à dire, attendez. avant de commencer à dire êtes-vous d'accord avec notre projet, avec telle et telle modalité du projet, il faudrait quand même savoir la règle générale. Il faudrait commencer par le commencement. Pourquoi tout raser ? Alors, il fallait tout raser pour que la Chambre de commerce et d'industrie puisse installer ses projets de centre de formation et pour les logements des étudiants qui iraient dans la centre de formation de la CCI. Il fallait donc quelque chose comme 350 logements, etc. Je me souviens, un jour, j'étais en commission municipale consultative du patrimoine historique et archéologique, et il y a un malheureux, le pauvre, je l'ai un peu persécuté, beaucoup, qui est intervenu sur le projet de la caserne Marceau. Il a parlé pendant 20 minutes. Et plus il parlait, plus je sentais la colère qui montait. Et quand il a eu terminé, le président de séance, M. Paulier de Faille, que je salue bien volontiers ici, a demandé qui avait quelque chose à dire. Je me suis emparé du micro. M. Paulier de Faille a tout de suite senti que ça allait être rude. Il a dit « Monsieur Toulet, restez calme, peine perdue. » J'étais en forme. Et j'ai commencé en disant « Je vous remercie, monsieur. Vous venez de faire la démonstration et m'apporter la preuve de ce que je pensais depuis le début, à savoir que le patrimoine n'a pas été pris en compte dans ce projet. Vous avez parlé pendant 20 minutes devant la commission du patrimoine, et pas une seule fois vous n'avez prononcé le mot patrimoine. Vous avez parlé de développement durable, de mobilité douce, de logement, de commerce, de services, de parc de stationnement, de bus à haut niveau de service, mais absolument pas de patrimoine devant la commission du patrimoine. Et à partir de là, j'ai sabré. Et j'ai rappelé qu'en 1973, il y avait un projet pour le quartier de la Boucherie.
Oui.
Qui consistait à tout raser sauf la chapelle et à construire autour des logements modernes et tout ça pour avoir un quartier moderne. Et j'ai dit, vous avez des principes d'urbanisme de 1973, essayez d'appliquer des principes d'urbanisme de 2019. Enfin bon, peu importe. Et donc, le malheureux, je l'ai laminé. Bon, M. Lousteau, qui était à côté de moi, a passé la deuxième... Non, il a passé la deuxième lame de rasoir. La première lame tire le poil, la deuxième le coupe très soigneusement. Donc, il a... ce que j'ai remarqué aussi, c'est le silence total des représentants de la mairie. Aucun n'a levé le petit doigt pour soutenir...
Le projet.
Le malheureux envoyé au front et qui venait de se prendre deux grandes bananes, deux grands chocs. Personne n'a levé le petit doigt. Bon, intéressant. Et puis le projet a évolué jusqu'au jour où la CCI a abandonné son projet. Et là, d'un seul coup,
tout est redevenu normal.
Eh bien, il fallait construire sur la place Marceau. On ne construira plus sur la place Marceau. Il fallait démolir les pavillons d'entrée. Je demandais qu'on en garde deux sur les quatre. On va garder les quatre. Je demandais que les alignements d'arbres soient conservés. Ils seront conservés. Ils devaient être rasés. Les écuries, la symétrie des écuries et le bâtiment enfant qu'on appelle le pavillon de l'horloge seront conservés. L'ouverture sur la rue du Chien-Chauveau est abandonnée. Suggestion que j'avais faite d'une ouverture piétonne sur le fond de l'impasse des Moineaux est actée, etc., etc. Et le nombre de logements a chuté. À partir de là, youpi. Et lors de l'atelier participatif, j'avais dit que le projet qui était présenté devait aller au seul endroit où il était digne d'aller, c'est-à-dire aux archives municipales. À vrai dire, et pour être très franc, j'ai dit les archives municipales, je pensais à un autre endroit, au fond du couloir à gauche. Mais comme je suis un être extrêmement poli, je n'ai pas dit que ce projet était digne d'aller au fond du couloir à gauche, même si je le pensais profondément. Mais le projet initial, ben, il y est parti, aux archives.
Mmh, oui,
aux archives, hein, je ne parle pas d'autre chose, là. Mmh. On est bien d'accord. Voilà. Donc, là, gros sujet de satisfaction.
Et bien, on va faire une page musicale là-dessus et on reparlera donc de tout ça. Et puis aussi peut-être des chroniques que tu viendras nous faire dans le Café des Amis régulièrement. Et d'ailleurs, moi, j'ai une idée qui a germé depuis que l'on en a parlé, cher Michel. C'est aussi peut-être que les expatriés viennent parler de villes ou du patrimoine qu'ils voient dans les pays où il réside.
Ah, ce serait tout à fait intéressant, parce qu'on a des leçons à prendre pour le patrimoine des pays étrangers. On considère trop souvent à Limoges qu'on sait tout et qu'on n'a pas besoin des idées de l'étranger. Mais je regrette le patrimoine, par exemple en Allemagne, en 44-45, il a subi un certain nombre de dégradations diverses. Pareil du côté de Varsovie, mais les remises en état ont été exemplaires. Bon, autre chose, je parlais du patrimoine paysager. On aurait peut-être un contre-exemple à prendre du côté des côtes espagnoles qui ont peut-être été un peu tonnées.
Et qu'on débétonne aujourd'hui.
Et qu'on débétonne.
En France aussi, quand même.
En France aussi, oui. Donc, il y a des idées à prendre à l'étranger, en bien et en mal, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On n'a pas la science infuse à Limoges, bien que certains croient que les idées limougeaudes sont supérieures aux autres.
Eh bien, on écoute ta programmation musicale pour laquelle tu as choisi Yves Duteil avec Tous les enfants du monde entier, l'hymne national ukrainien,
Slava Ukraini, on soutient l'Ukraine,
Nino Ferrer avec Le Sud,
Je suis du Sud,
Jean Ferrat, Que serais-je sans toi,
que je dédie à ma mère,
Madame Toulé.
Voilà.
Voilà, à qui on fait un petit coucou.
Voilà.
Eh bien, on écoute tout cela, et puis bon, on va reparler du patrimoine après.
Pour les enfants du monde entier qui n'ont rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. À chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien a-t-il payé de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile peut condamner tant d'innocents à tant de larmes et de souffrances? Leur la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères où vous dormez les yeux ouverts, laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on cède pour le monde, faire la peine pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie et des ghettos, des bidonvilles, du cœur, du siècle, de l'exil. Des voix s'élèvent un peu partout qui font chanter les gens debout. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied, en secret, dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent, à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté pour les enfants du monde entier. Pour les enfants du monde entier.
Qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années et toujours en été. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Y'a plein de chiens. Y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années et toujours en été.
guerre, on le sait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. En été,
que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes? N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue, une corde brisée au doigt du guitariste? Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement?
Vous êtes toujours sur RTF 95.14, sur www.rtflimoges.com, dans le Café des Amis, avec mon invité du jour, Michel Toulet, qui nous a beaucoup parlé de du rayonnement, entre guillemets, de Limoges, mais aussi des archives à l'étranger qui parlent de la France, et réciproquement, d'ailleurs. Monsieur Toulet va nous parler de la chapelle de Gay-Lussac. La chapelle de Gay-Lussac, c'est un débat, c'est une particularité, un combat qui date de quand même de plusieurs années maintenant.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait bien le problème, le voilà. Il y a été créé au XVe siècle un collège à Limoges. au XVIe siècle, les jésuites prennent en main ce collège et y construisent une chapelle pour le culte, puisque à l'époque, je le rappelle, 95% de la population est catholique et 99,5% de la population est chrétienne. Bon. À Limoges, il n'y avait pas beaucoup de protestants, donc c'est pour ça que je prends ces proportions. Dans d'autres régions, c'était un peu différent. Mais bon, donc, ils construisent une chapelle qui est de style qu'on appelle le style jésuite, construite par des jésuites, d'une logique rigoureuse. Cette chapelle va fonctionner jusqu'en 1907. Et puis, peu à peu, le culte va s'arrêter, notamment dans les années 1920. Et puis, un moment vient où on ne sait plus trop quoi faire de cette chapelle. On en fit donc un gymnase. Mais dans cette chapelle, il y a un retable, un grand retable du XVIIe siècle, classé monument historique. Bon, il était, entre guillemets, protégé derrière une cloison en planche, ce qui n'empêche pas qu'il ait reçu quelques tirs de ballon au cours de séances de gymnastique, ce qui tendrait à prouver que la protection par la cloison en planche était peut-être un peu légère. De plus, il a eu droit à un début d'incendie, enfin bref. Mais il est là et il fait 10 mètres sur 12. C'est un monument, ce retable baroque. Bien. En 2006, après le décès de Jean Levé, notre président fondateur, dont je salue ici la mémoire, j'ai lancé l'idée qu'il fallait bien faire quelque chose de mieux pour cette chapelle que de servir pour la gym avec un retable qui sert quasiment de fond au but de foot. Nous avons envoyé une première lettre à la région Limousin en charge des lycées. Pas de réponse. Deuxième lettre, pas de réponse. Troisième lettre, pas de réponse. Quatrième lettre, pas de réponse. Et quand je dis pas de réponse, c'est même pas la réponse de politesse. J'ai bien reçu votre lettre du temps et je vous informe que je mets mes services sur le dossier et que je ne m'en
fais
pas.
Non, il n'y a rien, quoi.
Rien, rien. Le silence total. J'en ai eu comme ça 13. 13 lettres.
Tu portes malheur, 13.
13. 13 lettres sans réponse. J'ai fait du battage dans les médias, ça je sais faire. Ça a commencé à bouger. Ensuite, il y a l'association des anciens élèves qui a pris en main le dossier. Il y a quelques proviseurs qui sont passés, qui se sont intéressés au dossier, pas tous. Le problème étant avec les proviseurs que dès qu'ils commençaient à s'intéresser et à aboutir à quelque chose, dans le cadre de leur carrière, ils étaient mutés dans un autre lycée et du coup, le suivant, ou bien avait d'autres idées, ou bien ne s'y intéressait pas. C'est dire comme c'était simple et facile. Bref, le dossier a dormi. Un jour, quand même, à force d'acharnement, la région a décidé qu'elle allait faire quelque chose. Donc, grand bonheur, on nous a promis que des études étaient en cours et que ça allait enfin faire quelque chose. C'est à ce moment-là que, par la réforme voulue par M. François Hollande, la région Limousin a été supprimée. Et donc, les promesses de la région Limousin n'engager nullement la nouvelle région Nouvelle-Aquitaine.
Complètement.
Youpi. Et donc, on repartait de zéro. J'ai laissé agir les anciens élèves de Guélu, qui ont fait du travail, mais je me suis rendu compte à un moment que ça n'avançait pas et que ça n'avancerait pas. Donc on repart au front. Donc j'ai envoyé une première lettre à M. Rousset au mois de mai 2024. À la date où je parle dans ce micro, j'attends toujours la réponse, au moins de politesse, comme quoi il a bien reçu ma lettre et qu'il met ses services et qu'il ne manquera pas de...
Non, mais il a des problèmes actuellement. Alors, il est un petit peu en condamné, là, je
voilà,
crois.
Alors, j'avais prévu une deuxième lettre. On va attendre peut-être quelques jours avant d'envoyer, parce qu'effectivement, il a quelques préoccupations annexes. Donc, mais il n'empêche que nous allons agir et agir fortement. Petite parenthèse, allez, pour mettre un petit grain d'anecdotes dans ce dossier. Lorsque je me suis battu entre 2006 et 2015 à peu près sur ce dossier, j'expliquais qu'il fallait arrêter de faire de la gym dans ce local avec le retable. Les gens du lycée disaient impossible, c'est absolument impossible. On ne peut pas parce que sinon le fonctionnement du lycée en sera perturbé, donc absolument impossible, il faut continuer à faire. Jusqu'au jour, et je ne suis strictement pour rien dans ce qui s'est passé, je le garantis sur facture, jusqu'au jour où une pierre s'est décrochée de la voûte pendant un cours de gym.
Il faisait de la corde.
Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais enfin bon, heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de victimes.
Oui.
C'est passé. Mais enfin bon, ça fait une belle frayeur. Et d'un seul coup, motif de sécurité, on a fermé l'usage de la chapelle comme salle de gym. Ce qui était impossible est d'un seul coup devenu possible. Oh, comme c'est original.
Mais il y a des caméras de vidéosurveillance qui montrent qu'avec une petite cuillère, tu es en train de déceler les pierres.
Enfin bon, là j'avoue que quand même, voilà, comme quoi parfois, des pierres peuvent servir.
Voilà, merci. Et du coup, où est-ce que ça en est au jour d'aujourd'hui, à part que la lettre est sans réponse?
Pour l'instant, la chapelle ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a 400 mètres carrés
qui peut faire local, une salle d'exposition, une salle de spectacle.
Une salle de conférence.
Oui.
Alors, j'ai eu une discussion avec...
Ça appartient à la région, ça appartient pas.
Alors, attention, il y a plusieurs choses. D'une part, j'ai eu une discussion avec un des proviseurs qui était favorable pour en faire une salle de conférence pour les grandes réunions des élèves en période scolaire et pour le grand public, puisqu'il y a une porte donnant sur l'extérieur, en dehors des périodes scolaires. C'était une excellente idée. Mais là-dessus, il y a un problème. On m'a fait remarquer qu'il y avait un énorme problème. C'est le retable. Et le retable est rempli de motifs religieux. Et la laïcité, bien comprise ou mal comprise par certains, faisait qu'on ne pouvait pas, aux yeux des élèves, exposer une œuvre d'art du XVIIe siècle qui a des motifs religieux. J'avoue que j'en ai explosé. Parce que le retable 10 mètres sur 12, ou le mettre.
Ah oui, c'est toujours le problème.
Il y a eu des projets. Aucun ne convient. On a proposé de le mettre dans l'église de Solignac, on a proposé de le mettre dans l'église Jeanne d'Arc, on a proposé de le mettre dans la cathédrale. Tout est impossible. Alors, on m'a dit à un moment, on pourrait le démonter et le mettre dans des caisses provisoirement. provisoirement dans des caisses.
Ça a marché pour le mobilier de la gare.
Oui, tu as vu le temps qu'il a fallu quand même pour le mobilier de la gare ?
40 ans.
Voilà, voilà. Je n'attendrai pas 40 ans. Hein. Donc voilà. Donc, le provisoire dans les caisses, petite remarque en passant. Provisoirement, on a réemblayé les vestiges de Saint-Martial.
Oui.
Provisoirement. Je vais me fâcher là aussi, ça va être un des sujets. Petite remarque aussi. En 2003, on a trouvé un baptistère devant le portail Saint-Jean de la cathédrale. Oui.
Le plus grand de France ou d'Europe.
D'Europe, voilà. Il nous avait été promis qu'il serait valorisé dans les 3 ans. 2003 et 3, ça fait, je ne sais plus calculer ce que ça fait. Bref.
2003
2003. Et donc... Donc voilà. Mais donc il a été remblayé provisoirement. C'est fou le provisoire, ce que ça peut durer en France. Donc on veut que j'accepte une mise en caisse provisoire. Ah, faudra me passer sur le corps là.
Je me doute. Et ça, c'est encore des projets, des combats de Renaissance du Vieux-Nîmes.
Tout à fait.
Limoges, mais je pense que d'autres associations amies que tu as, je crois que tu as Renaissance du Vieux-Lyon de mémoire,
voilà, oui.
Qui sont confrontés au même problème.
Ah, tout à fait. Nous avons, avec Renaissance du Vieux-Lyon, deux caractéristiques, les mêmes combats, la même pugnacité, et les mêmes initiales.
Et j'ai une question, les Renaissances du Vieux-Limoges, du Vieux-Paris, etc. Est-ce que vous communiquez beaucoup ou vous entraidez ?
Alors, nous faisions partie de deux fédérations que nous avons dû quitter pour deux raisons différentes. L'une qui a augmenté ses tarifs à des prix absolument prohibitifs. Ça aurait entraîné pour nous une cotisation annuelle d'à peu près 500 euros par an, alors que nous avons...
Pour faire quoi ?
Pour recevoir leur courrier.
C'est tout ?
C'est tout, oui. Et pour une association qui a un budget d'à peu près 4000 euros par an. Donc 500 euros pour 4000 euros, on ne pouvait pas. Je rappelle d'ailleurs en passant que Renaissance du Vieux-Limoges ne touche strictement aucune subvention de qui que ce soit. Pour une raison très simple. Vous me voyez en train de dire à Monsieur le maire, votre projet en matière d'urbanisme à la caserne de Marceau est, ou ailleurs, est déplorable. Donnez-moi donc 2000 euros pour que je puisse expliquer à tout Limoges pourquoi votre projet est déplorable. Donc, jamais aucune subvention pour quoi que ce soit. On fait tout avec nos propres moyens, c'est-à-dire nos cotisations. Et j'invite donc les auditeurs à adhérer en masse à Renaissance du Limoges en allant, par exemple, sur notre site www.rvl87.com. 87, oui, parce qu'il y a aussi RVL de Lyon, dont on parlait tout à l'heure. Donc, rvl87.com. Pour pouvoir adhérer en masse. Nous avons des cotisations pour les étudiants à 5 euros, pour les membres habituels 25 euros, et les membres bienfaiteurs à partir de 50 euros. Et pour les couples, c'est une cotisation et demie correspondante. Donc pour les couples d'étudiants, pour les couples ordinaires, pour les couples bienfaiteurs, n'hésitez pas à adhérer en masse. Vous nous donnerez ainsi les moyens d'agir pour le patrimoine de Limoges.
Et avec, vous avez la lettre.
Alors, vous avez deux choses. La lettre d'information qui vous informera tous les 3 mois sur l'actualité et des bulletins de liaison occasionnels, quand on a de quoi faire, qui, eux, sont plus historiques. Voilà.
Tout à fait. Avant de passer à la suite, nous allons faire une page musicale. Donc, avant de clôturer dans la prochaine partie l'émission, a choisi Bourizian avec Le Déserteur, Edith Piaf de Une Nouvelle Fois avec Non, Je Ne Regrette Rien.
Oui, ça, Je Ne Regrette Rien.
Richie Poveri, Sahara Perché Ti Amo.
Ben voyons un peu.
Françoise Hardy avec Mon ami la rose.
Très belle chanson.
Alors pourquoi ces choix ?
Ben je viens de dire.
Très belle chanson.
Très belle chanson. Ricky Poveri aussi et puis tout ça, voilà, simplement. Et puis non, je ne regrette rien.
Ben. Bon, ben alors,
ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal.
Eh bien, on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
De Michel Beaucaire et Charles Dumont, non, je ne regrette rien. Payé, balayé, oublié, je me fous du passé. Ave avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer mes amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes choix aujourd'hui, ça commence avec toi.
Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene,
fermée la nuit, me suis réveillée vieille. j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe. Déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin.
Vous êtes toujours dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Je précise à nos auditeurs que l'émission peut être écoutée avec les expats et sur internet, donc à tous nos expatriés, mais également en podcast sur le site de la radio dès demain matin. Donc l'émission touche à sa fin, cher Michel Toulet de Renaissance du Vieux Limoges. Donc qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs, et surtout quels sont les combats en plus de ceux du retable qui vont être menés dans les prochains mois pour sauvegarder ce patrimoine qui t'est si cher?
Alors, il y a plusieurs actions en cours, notamment une qui nous tient un peu à cœur, c'est sur les plans locaux d'urbanisme. Nous rentrons là dans le technique administratif. Attention, il faut s'accrocher. Bon, chacun sait que les plans locaux d'urbanisme définissent la politique d'urbanisme d'une commune, et donc on définit des zones et dans chacune de ces zones des règles. Actuellement, il y en a sur Limoges et il y en a sur les communes limitrophes. Depuis quelques années, Renaissance du Vieux Limoges est agréée comme association
d'inutilité publique.
Non, comme association agréée en matière d'urbanisme. C'est-à-dire que nous, notre avis est demandé chaque fois qu'il y a une élaboration ou une modification d'un plan local d'urbanisme. Donc, pour les élaborations, on participe à des réunions. Pour les modifications, on nous envoie un dossier tout ficelé et on est invité à donner un avis à partir de ce dossier. Bon. Actuellement, il y a une petite nouveauté, c'est que pour l'instant, les PLU sont communaux, mais maintenant, il va y avoir l'élaboration d'un PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, élaboré par Limoges Métropole. Donc, nous sommes partie prenante à cette élaboration. C'est un dossier très important, parce que c'est à travers ce document qu'on définit le patrimoine. Et il faut bien le définir. Je vais prendre un exemple. Le PLU d'une commune limitrophe de Limoges, mais qui n'est pas Limoges, qui est située au sud-sud-ouest de Limoges, possède sur son territoire une ancienne abbaye fondée par un certain Saint-Éloi, mais je ne dirai pas le nom de la commune dont il s'agit. Lors de l'élaboration du PLU, ils avaient oublié de mettre dans la liste des bâtiments à protéger par le PLU, puisque les PLU peuvent accorder une protection plus légère que les classements ou les comme monuments historiques, hein, c'est nettement plus léger, mais accorder une protection aux anciens bâtiments conventuels, qui à l'époque étaient inoccupés. Mais maintenant, ces bâtiments sont occupés. Ça pose quelques polémiques dans cette commune, mais c'est parce que Renaissance du Vélimoges a dit « Attendez, là, ces bâtiments-là, vous me les protégez », que quand même, ces bâtiments-là ont été protégés, même d'une protection légère. Ouf, j'en suis satisfait. Donc, on n'est pas que... Voilà, on est là pour faire des choses et dire des choses. Actuellement, bon, on reçoit régulièrement des modifications. C'est tout à fait intéressant. Bon, il y a des choses tout à fait intéressantes. Des moments où on fronce le nez. Et puis, depuis quelque temps, eh bien, il y a une commune qui, de plus en plus, nous fait froncer le nez. Cette commune est à l'ouest de Limoges, entre Condat, Verneuil, par là, Landouge, enfin, par là. Je ne dirai pas son nom. C'est qu'elle multiplie les choses originales. Et là, ça commence à devenir agaçant, parce que le patrimoine paysager...
Oui, il fait partie du patrimoine. C'est le cas de
qui fait partie du tu patrimoine, l'as dit au début, je l'ai dit. Là, visiblement, je prends un exemple. Une zone qui est un couloir écologique et donc protégé comme tel. Au beau milieu, une parcelle, une seule, va être déclarée constructible pour une habitation privée en plein milieu du couloir écologique protégé. Pourquoi ? Eh bien, j'ai demandé au service de bien vouloir indiquer pourquoi, et j'ai fait remarquer que, en plus, que comme ce n'était desservi que par un chemin de terre, il allait falloir, pour construire,
tracer
les égouts, l'eau, le gaz, l'électricité et tout ce qui va bien, qui est nécessaire pour construire, à travers ce couloir écologique. Et là, on m'a dit, mais monsieur Toulet, cette parcelle déclarée constructible ne sera jamais construite.
Bon, pourquoi la mettre constructible ?
Hein ?
Oui, pourquoi la mettre constructible ?
C'est la question que j'ai posée. On ne m'a pas répondu. Donc, voilà, maintenant, nous avons des parcelles constructibles qui ne seront pas construites. Il est vrai que c'est une promesse et que les promesses, on sait bien, surtout en matière politique, ce que ça donne.
Et quels sont les recours de cette commission sur cette irrégularité avérée? Mais... Vous allez écrire à Paris, au ministère qui s'occupe de
Alors,
ça.
Alors, pour l'instant, je me suis contenté de taper du poing en envoyant au maire concerné un diplôme, une pelleteuse d'or pour l'ensemble de son œuvre. Parce que je vous dis ça, mais parce que c'est la cerise sur le gâteau. Mais il y a plein d'autres choses. Hein, il y a plein d'autres choses. Actuellement, il y a un dossier aussi qui nous a été envoyé. Il y a un bassin de rétention pour une zone d'activité de cette commune qui, depuis 40 ans, n'a jamais été entretenu, curé et tout ça.
Aïe.
Oui, donc il va falloir le faire. Le problème, c'est que le bassin de rétention se trouve dans une zone protégée, classée. Mais c'est tellement merdique qu'il va falloir passer de gros engins pour curer convenablement. Donc il va falloir abattre les arbres dans une zone protégée classée. Donc on nous demande de bien vouloir autoriser la destruction d'un espace classé protégé pour régler les défaillances des services municipaux chargés de l'entretien de ce bassin de rétention.
Et ils ont quoi comme possibilité? Parce que là, c'est vrai que...
Est-ce qu'il ne serait pas possible de faire un autre bassin de rétention à côté, en dehors de la zone classée? Parce que la zone classée, c'est le long d'un ruisseau. Donc on peut faire un bassin à quelques mètres. Mais non. On fait simple, on coupe.
D'accord, mais là, ça fait beaucoup pour cette
ça fait beaucoup.
Mais du coup, vous n'avez pas de...
On donne des avis défavorables, mais notre avis n'est que consultatif.
Alors, et vous ne pouvez pas envoyer au ministère, je ne sais pas, aux commissions,
les avis sont envoyés à Limoges Métropole, mais parfois Limoges Métropole, j'ai l'impression, allez, je vais être pour une fois mauvaise langue, mais c'est quelque chose qui ne m'arrive jamais d'être mauvaise langue, mais donc je peux le faire pour une fois. C'est parfois plutôt une boîte aux lettres qu'autre chose. Je prends un exemple. J'ai reçu un PLU avec chaque PLU a un dossier qu'on appelle un diagnostic. Dans tous les domaines, il y a un rapport de plusieurs pages en matière de logement, de circulation, d'écologie, de patrimoine, etc. Enfin, il y a des rapports sur l'état du patrimoine. Bon, et j'ai lu le dossier, le rapport en matière de voirie, d'écologie, de commerce, d'urbanisme et tout ça était parfait. Le rapport, plusieurs pages, était truffé de fautes d'orthographe. À croire qu'un stagiaire de troisième illettré avait rédigé ce rapport. La commune était traversée, était E-T-A-I-T, traversée T-R-A-V-E-R-S-A-I-T. Etc. Et il y en avait 40 à la page, uniquement sur le patrimoine. Et après, le maire vient me dire, nous avons un grand souci du patrimoine, mais ce dossier a été rédigé par une agence, a été envoyé par l'agence, validé par l'agence, envoyé par l'agence à la mairie, qui l'a validé, qui l'a envoyé à Limoges Métropole, qui l'a validé, et qui l'a envoyé à Renaissance du Limoges pour que nous voyions et donnions un avis consultatif. Mais à quoi ont servi les autres étapes? Ils ont lu le texte, ils l'ont simplement lu. Je ne leur demande pas de...
Bon là, ils auraient pas allé... Personne ne l'a lu.
40 pages. Mais alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est fulgurant, c'est extraordinaire. Bon, alors on va me dire, Monsieur Toulet, vous prenez un exemple caricatural. Oui, mais les exemples caricaturaux,
il y en a beaucoup maintenant.
Il y en a beaucoup et souvent ils illustrent bien certaines choses. Mmh. Voilà. Donc on a ça. On a quelques dossiers aussi sur la maison traditionnelle de la boucherie qu'il faut faire évoluer. Nous sommes en partenariat avec la ville, avec Madame Lascar, que je salue aussi parce que je travaille bien avec elle, et sur la maison de la boucherie. Il faut la faire évoluer, cette maison de la boucherie, savoir ce qu'il en est exactement. exactement. C'est pour ça, d'ailleurs, dans le dernier bulletin de liaison, que j'ai fait une étude sur les maisons de la rue de la Boucherie, parce que c'est en connaissant les documents et la réalité du passé qu'on peut travailler à des projets. Expliquer comment est fait une maison de la Boucherie, je suis allé chercher les inventaires notariés de toute une période pour voir ce qu'il y a. Et il y a des trucs merveilleux, des trucs absolument sublimes. Par exemple, dans une chambre, le lit, la commode, les placards, 50 kilos de lard et 20 kilos de suif.
Inotifié et tout, quoi.
Ça servait à tout. Ou bien dans une autre maison, la cheminée. À côté de la cheminée, le notaire indique un tas de bois d'une demi-charretée. Là, une demi-charretée de tas de bois, il y a de quoi faire. Et donc,
ça dépend de la taille de la charrette.
N'est-ce pas ? Mais quand même. Et en sortant, le notaire indique dans son acte, le tas de bois ayant été remué et désempilé, c'est le terme, nous y avons trouvé un sac contenant 50 pièces d'or de 20 francs et 10 pièces d'or de 5 francs.
Un beau petit magot.
Un joli petit magot, surtout que c'était des francs or de l'époque à haute valeur. Donc voilà, je donne la cachette à tous les voleurs. Trucs. Si vous entrez dans une chambre et que vous voyez un tas de bois d'une demi-charretée, remuez-le, vous allez peut-être trouver le magot. Voilà, donc là, il y a... Alors, allez, histoire de finir en beauté, j'ai aussi trouvé un petit article. C'est M. Nivet, le très aimable... libraire de la rue de la Boucherie, qui m'a passé un petit texte d'un libre penseur sur la rue de la Boucherie. Alors, la rue de la Boucherie, très catholique, le libre penseur s'en est donné à cœur joie. Et je finis en vous lisant ce passage. Si vous osiez un soir, la nuit, longer la rue de la Boucherie, si vous ne craignez pas la morsure de quelques chiens sauvages, vous verriez les intérieurs les plus pittoresques et les plus curieux. Autour d'une table, à la lumière d'une chandelle de suif jaune dont la mèche grossière fait découler le liquide bouillant, le père, la mère, les enfants, le chien, le chat mangent dans le même plat. Jamais pendant le repas une seule parole n'est échangée, si ce n'est ou un jurant grossier, ou un grognement du chien, ou un miaulement du chat. Et si votre courage vous permet d'affronter le seuil de la porte, vous remarquerez la chose la plus repoussante qu'il y ait au monde, le pavé de cette antre, ou plutôt de cet abattoir, est couvert de sang coagulé, d'immondices de toutes sortes. Les chiens et les chats dégoûtés respectent ces résidus et préfèrent les mets du moins cuits que mangent les maîtres. Sur le plateau de la cheminée, une Vierge ou un Christ complètement fumé sorti de la boutique à 4 sous, et c'est dans ce seul logement, ou plutôt dans ce taudis, où se dépouillent et se vendent les animaux, moutons, veaux ou vaches, qui servent à la consommation de la population. Là, il s'en est donné à cœur joie, d'autant que ce texte est de 1880,
oui.
Et que depuis 1834, il y a un abattoir à Limoges, et que donc on n'abat plus dans les boucheries, et que donc il ne peut pas y avoir du sang coagulé sur le pavé de ces logements.
Tout à fait.
Les inventaires après prouvent qu'il n'y a pas de chandelle de suif jaune et que les logements sont tout à fait décents. Alors, bien sûr, il peut y avoir une maison ou deux qui soit moins bien tenue que les autres, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est un très joli texte, c'est
exagéré.
Un très joli pamphlet, mais bon, je ne pouvais pas ne pas dire ça.
Eh bien, on va se quitter, cher Michel Toulet. Je rappelle ton adresse mail pour ceux qui veulent te contacter pour Renaissance du Vieux Limoges, et puis aussi le site. Hein.
Oui.
Donc, l'adresse mail, c'est michel.toulet. T-O-U-L-E-T LET@orange.fr.
Oui.
Et pour le site, c'est www.rvl87.com.
Voilà, exactement.
Et on va se finir par ta page musicale. Nous retrouvons Jean Ferrat avec Ma France.
J'aime bien.
Simon & Garfunkel avec The Sound of Silence.
J'aime bien aussi.
Pierre Perret avec Lily. Et on terminera par le tour le teteux.
Limousin, bien sûr.
Eh bien, je te dis à très vite et à très bientôt donc pour de nouvelles aventures et peut-être des chroniques.
Ok, merci.
Au revoir.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo me. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant. Même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents.
et les mains beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily, et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Saison. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence. Déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre. Ma France, celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille. Ma France, Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui paie toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs. Ma France, celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France,